Bienvenue à l'émission de la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes. Le G8, le groupe de 7 pays plus industrialisés est la Russie. Les pouvoirs économiques et politiques qui gèrent et déterminent les conditions de vie et les destins de tout le monde à travers la planète. Ils se réunissent en Kananaskis, Alberta, le 26-27 juin. Aussi, les ministres du Travail du G8 se réunissent ici à Montréal le 25 au 27 avril. Pour dénoncer et résister leur vision du monde, les groupes militantes, les organisations populaires, les ONG, les syndicats, tous les secteurs à travers le Canada commencent la mobilisation et sensibilisation. La CLAC aussi lance une campagne d'action populaire, toujours en renforçant le travail d'éducation populaire, les assemblées publiques, les conférences, les caravanes qui sont à la base de nos principes de l'action directe, notre histoire comme convergence et surtout de notre philosophie politique. Alors, de parler du G8, c'est de parler de la guerre, la génocide et la colonisation, le racisme et le terrorisme, la criminalisation de la pauvreté et la dissidence. Et surtout, c'est de parler de l'exploitation. Alors aujourd'hui, on va écouter à Pierre-Antoine Harvé, membre de la CLAC, nous expliquer un peu de c'est quoi la vision des ministres du Travail du G8. Après ça, on va parler avec Marc-André Houle de la CLAC aussi pour aller sur une critique plus profonde de le travail.
Alors, les 25 et 26 avril 2002, les ministres du Travail des 8 pays membres du G8 vont se rencontrer à Montréal pour un petit cocktail et une rencontre qui est assez informelle pour discuter entre eux, se rencontrer, faire du social et se donner quelques tapes dans le dos. Alors, c'est la troisième fois, moi, que je sais que les ministres du Travail se rencontrent comme ça avant les grandes rencontres des premiers ministres du G8. Donc, il y avait eu une rencontre en 98 à Kobe, juste avant la rencontre du G8 à Okinawa. La même chose à Turin, je crois qu'ils s'étaient rencontrés avant le fameux G8 qu'il y a eu à Gênes il y a pas très longtemps. Alors, les ministres du Travail se rencontrent. La plupart du temps, c'est des rencontres assez informelles. Et ils n'ont pas de compte à rendre les uns envers les autres. Ils n'ont pas d'entente à signer. Ils se rencontrent simplement pour parler et se vanter. Selon les informations que j'ai obtenues, le premier ministre et le cabinet du premier ministre ont demandé à la ministre du Travail de garder ça le plus tranquille possible. Il fallait pas que ça sorte dans les médias trop fort. Il fallait pas qu'on parle de sujets pointus. C'est vraiment du blabla administratif, du blabla de fonctionnaire. Et ça, c'est un peu pour camoufler la réalité, le vrai travail des ministres du Travail ou de l'Emploi. Alors, les sujets qu'on peut voir à l'ordre du jour, ça sera probablement le développement des compétences et un autre sujet qui était là, qui est présent depuis Turin, et même depuis Kobe, c'est ce qu'ils appellent en anglais « active aging ». Alors, la vieillesse active, si je peux le traduire comme ça, c'est qu'on s'est rendu compte dans plusieurs des pays industrialisés, la plupart des pays riches, que la population active est en train de vieillir. Alors, on allait se retrouver avec une grande part de la population qui était à l'âge de la retraite et un peu moins de monde qui était dans la population qui pouvait travailler pour supporter l'ensemble de la société. Alors, la solution qu'on est en train de dessiner et de proposer, c'est de rendre les personnes en âge de leur retraite, de les rendre actives. Et quand on parle d'actifs, c'est actifs dans le marché du travail. Alors, de trouver des moyens de les garder actifs, les faire travailler plus longtemps, que ce soit par des emplois avec moins d'heures par semaine ou que ce soit par des programmes gouvernementaux pour associer la retraite, la pension de retraite avec une implication communautaire. Donc, on ne sait pas trop si c'est en train de se négocier. Le gros enjeu derrière ça, c'est que comme il y aura un manque de main-d'œuvre dans la plupart des pays industrialisés, beaucoup de pays européens, particulièrement la France et l'Italie, ont peur que ce manque de main-d'œuvre-là soit comblé par une immigration massive. Mais ça vient de la pression beaucoup plus européenne. Donc, on s'est dit, faut pas trop avoir d'immigration. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire travailler nos vieux plus longtemps. Donc, Active Aging, mais il n'est pas au programme officiellement, sauf que c'est un thème qui revenait à chacune des réunions. Alors, on ne serait pas surpris que les dirigeants en reparlent encore une fois.
On assiste maintenant à travers le monde, depuis longtemps, à une grande polarisation du marché du travail. On voit d'un côté les bons emplois, en guillemets, les emplois qui demandent un très haut niveau de scolarité, un contrôle des technologies, contrôle de l'économie du savoir, aussi des emplois qui sont au niveau de la gestion du capital. Ces emplois-là, donc, qui sont réservés à une certaine élite, eux voient leurs conditions de travail s'améliorer au niveau des salaires. Les salaires se montent en flèche, les conditions de travail, bon, programmes sociaux, les avantages sociaux, tout ça, c'est en train de s'améliorer. De l'autre côté, donc, on voit vraiment un écart s'améliorer. C'est les emplois qui sont, bon, traditionnellement, ce qu'on appelait les emplois non qualifiés, les emplois manuels. Donc, travailleurs dans les usines, travailleuses dans les usines, travailleurs agricoles, mais aussi des emplois qui sont qualifiés, qui demandent certaines qualifications. Par exemple, tout ce qui est au niveau du service, des différents services, services aux personnes, restauration, hébergement, les types de services aussi, du secrétariat, hein, rentrer des données, même en informatique, certains métiers informatiques, comme vous êtes programmateur, si vous êtes au bas de la chaîne de production d'un programme informatique, vous êtes un ouvrier informatique et vous ne recevez pas les salaires de 20 pièces de l'heure. Là, vous êtes payé le salaire minimum et 10 pièces de l'heure. Et de ça, il y en a de plus en plus de travailleurs qui font ces emplois-là, donc les salaires diminuent. Alors, c'est fort probablement le principal problème économique auxquels font face les travailleurs et travailleuses dans le monde. Les ministres du Travail semblent se dire, bon, c'est bon, il y a une polarisation du marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on s'organise pour que notre population puisse agripper les bons emplois et le reste des emplois, bon, on les laisse détériorer. Puis, si tout va bien, ça va s'en aller dans les autres pays, ça va s'en aller dans les pays qui ne sont pas membres du G8, ça va s'en aller vers les pays pauvres, vers les pays du Sud. Alors ça, c'est vraiment une tendance, de toute façon, qu'on observe depuis longtemps. La polarisation des emplois vient de trois choses principalement. Premièrement, bon, le développement technologique. Ça, c'est clair, c'est grand responsable. Maintenant, on le sait dans les usines, dans les entreprises, les travailleurs et travailleuses sont remplacés par des machines, par des ordinateurs. C'est donc un des principaux impacts. L'autre impact, c'est l'augmentation de la main-d'œuvre disponible. Alors, maintenant, le progrès technologique est arrivé aussi dans l'agriculture, est arrivé aussi dans les pays du tiers-monde, ce qui fait qu'une grande part de la population qui s'occupait avant à faire de l'agriculture de subsistance du Sud se retrouve maintenant libérée, et bien là, sont disponibles pour travailler dans les usines. L'autre élément qui est assez important aussi, bien, c'est la libéralisation des échanges, la mondialisation, qui, elle, donne accès aux entreprises à un vaste bassin de main-d'œuvre qui peuvent occuper les emplois qui demandent peu de qualifications. Genre maintenant, les usines au Canada n'ont pas seulement à choisir à travers les travailleurs et travailleuses du Canada, peuvent aller au Mexique, peuvent aller en Asie, en Afrique, pour choisir des travailleurs. Ce qui fait que maintenant, une grande majorité de la population qui se situe chez ces travailleurs-là sont maintenant en concurrence les uns contre les autres. Il ne faut pas croire que la concurrence se fait simplement entre les travailleurs du Sud et les travailleurs du Nord. Il ne faut absolument pas dire « Ah, c'est la faute aux travailleurs du Sud si nos conditions au Nord sont en train de se détériorer. » Ça, c'est pas vrai. J'ai les chiffres pour les États-Unis. Aux États-Unis, on dit que 75% de la population active sont considérés comme non qualifiés. Ils n'ont pas de diplôme postsecondaire. Alors, c'est extrêmement important. Et c'est entre ces travailleurs-là aussi que se joue la compétition, que les employeurs utilisent la vieille méthode de diviser pour régner. Alors, on a vu aux États-Unis, simplement, et au Canada, le déclin des emplois industriels qui ont chuté depuis au moins les 30 dernières années, mais clairement depuis les années 80. Alors, ça remarque depuis 1989, l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, 94, l'ALENA. Si on regarde depuis ces années-là, les salaires au Canada, au Québec, aux États-Unis et au Mexique ont diminué partout. Okay. Il y a eu une légère croissance au Canada, on parle autour de 2,2%. Alors, une croissance qui est extrêmement ridicule si on compare avec la croissance du PIB par capita au pays, qui était autour de 19%. Alors, la richesse globale au Canada a augmenté proche de 20% et nos salaires ont augmenté de 2,2%. Si on regarde dans certains secteurs, le secteur manufacturier, ça a chuté de 1% depuis 1989. Donc, au lieu de d'amener des améliorations de conditions de travail, ça a amené une détérioration des conditions de travail. C'est la même chose aux États-Unis, où le salaire moyen a augmenté d'autour de 2% et le salaire industriel, lui aussi, a chuté. Donc, et au Mexique, qui devait être des grands gagnants hein, de l'ouverture, il était supposé avoir tous nos emplois et avoir des améliorations extraordinaires de leurs conditions de travail. C'est tout le contraire. Il y a eu effectivement création d'emplois, mais des emplois de mauvaise qualité dans les maquilladoras, en grande partie, et des emplois qui n'ont pas vu une augmentation de salaire. Au contraire, il y a eu 17 % de diminution de salaire, du salaire moyen au Mexique. Alors, depuis les années 90, depuis les années 80, l'OCDE pousse dans le dos des pays pour libéraliser, pour flexibiliser le marché du travail. Qu'est-ce que ça a donné? Bien, concrètement, chez nous au Canada, ça a donné premièrement des politiques, comme on sait en Ontario, le nombre d'heures par semaine pour tomber en temps supplémentaire est passé de 40 heures à 60 heures. C'est-à-dire, vous n'avez pas de temps supplémentaire avant 60 heures dans une semaine. C'est extrêmement long. Donc, c'est permettre à l'employeur de vous faire travailler plus ou moins quand il veut. Au Québec, ça a donné des négociations. Lorsqu'on a refait le Code du travail, on a ouvert l'article 45 qui empêchait les compagnies syndiquées de faire de la sous-traitance. Maintenant, alors les compagnies peuvent faire appel à des sous-traitants, même s'il y a un syndicat dans la boîte, ce qui fait réduire le pouvoir de négociation des syndicats et surtout perdre des emplois syndiqués pour des emplois sous-traitants. D'autres politiques ont arrivé, l'abolition des décrets. Alors, décrets, c'était des lois qui protégeaient les travailleurs et travailleuses dans des secteurs particuliers. Par exemple, dans la couture, il existait une loi particulière qui leur donnait un salaire minimum plus élevé, des normes de travail meilleures que ce qui existe au minimum. Et ça a été aboli en 2000, suite aux pressions des compagnies, surtout sous prétexte de la mondialisation.
Alors, c'est ça la vision de la mondialisation et le travail. Comment on va utiliser le main-d'œuvre de bon marché du Sud et les travailleurs ici dans le Nord. Mais Marc-André Houle, sais-tu assez de juste dénoncer la baisse de salaire et la détérioration des conditions du travail?
Non, en fait, on le voit là, ce que ça amène la mondialisation, c'est que ça met à nu encore plus cette vérité-là. C'est que le travail, dans le fond, c'est basé dans notre société sur l'exploitation et bon, ça nous fait de nous des vrais morts vivants là, par rapport à la vie qu'on mène. Il y a de moins en moins de sens, en fait, qui est relié à ce travail-là. Dans nos sociétés, il n'y a pas grande différence, en fait, entre faire construire une bombe ou faire des sous-vêtements ou n'importe quoi. Il n'y a plus vraiment d'idées sur ce qui est utile ou qui n'est pas utile, puisque le but premier du travail, dans le fond, c'est de faire rouler le capital. Et c'est de faire que le capital continue de grossir. Et c'est donc de faire ce que les profits augmentent. Pendant longtemps, on a pensé que ça a certainement été vrai pendant un certain temps. Si tu as du travail, tu as accès à certains droits. Mais dans le fond, tout ce que ça voulait dire, c'est que tu avais accès à des droits qui étaient tronqués complètement. Ça cachait tout le temps la réalité. On passait notre vie à produire sans avoir aucune capacité de se poser la question pourquoi on produit ça et pourquoi on le produirait de cette manière-là. L'intervenant avant, Pierre-Antoine, disait « Bon, la révolution technologique des dernières années a coupé des emplois. » C'est vrai que ça l'a coupé des emplois. C'est vrai aussi que ça l'a ramené cette réalité-là de l'emploi à son expression la plus directe. Le travail est rendu de plus en plus abstrait et on a de la difficulté à voir ce qu'on fait vraiment. Et on dirait que ça nous emmène vers son non-sens le plus absolu. Tu sais, à quoi ça sert? À quoi ça sert de dire... avant ça, on pouvait toujours dire, bon, je travaille le métal, je transforme des affaires. Maintenant, on fait juste surveiller des cadrans qui surveillent des processus. Puis donc, c'est encore plus inutile de commencer à chercher un sens dans ce travail-là. Comme la seule utilité que le salaire, que le travail nous amène pour nous, c'est souvent son salaire. Et on voit que son salaire est c'est souvent soit ridicule ou soit c'est relié à une intensification du travail, donc à une plus grande exploitation. C'est pour ça que ce que nous amène finalement la mondialisation, si on veut être un peu, si on veut être cohérent avec nos critiques, c'est une plus grande exploitation puis une plus grande dépossession de nos vies en tout cas. Puis, c'est pas tant juste le travail séparé de l'économie, c'est l'ensemble du système économique. C'est ce qui forme, on pourrait dire, là, la logique du capitalisme. Perdre sa vie, elle a gagné.
OK. Puis, est-ce qu'il y a des textes ou quelque chose que tu pourrais suggérer à des gens qui s'intéressent à s'informer plus là-dessus?
Oui, bien, traditionnellement, absolument, il y a comme deux critiques face au travail, OK? Il y en a une, en premier temps, et ça a été celle du mouvement ouvrier qui disait « faut libérer le travail du capitalisme », grosso modo, mm-hmm. permettre aux ouvriers de s'exprimer dans le travail. Ça, c'est à l'époque de la naissance du capitalisme industriel. Dans le temps, on sait que, bon, les artisans voulaient sauver un peu de ce qui restait du sens qu'eux trouvaient dans leur travail. En disant ça, il n'était pas question de valoriser aussi ce qui se passait dans le monde féodal, dans le Moyen-Âge. Tu sais, dans le Moyen-Âge, c'était aussi la dépendance et la domination absolue. Ça a été la première critique, ça a été dit qu'il faut libérer le travail. Là, maintenant, il y a dans le fond, quand on regarde le manifeste du Parti communiste, c'est un peu ça. Hein. Il faut libérer le travail de son organisation capitaliste. Maintenant, on a tendance à dire qu'il faut se libérer du travail. Et tu as plusieurs textes. Il y a un texte qui est récent, c'est un groupe allemand, ça s'appelle « Manifeste contre le travail ». Il représente bien cette tendance-là. L'autre tendance existe encore, mais la critique qu'on peut y faire, c'est que il n'y a plus grand-chose à libérer du travail de son organisation capitaliste, puisque de plus en plus même, on essaye d'aménager les ouvriers vers un plus grand confort au travail, vers une meilleure exploitation, sans que ce travail-là gagne en sens. Et quand je dis sens, c'est pourquoi on le fait, et au nom de qui et pour qui. On le fait tout le temps pour d'autres et jamais pour soi, et il n'y a jamais d'autogestion là-dedans, en tout cas d'autonomie. Alors que la critique du travail purement et simplement, fait par le groupe Crisis, qui est un collectif allemand, c'est tout simplement de dire que le travail dans notre système a tout le temps été ça, une activité séparée dans laquelle on s'engageait justement dans une prison qui était l'usine, dans laquelle les ouvriers ne décidaient rien, absolument rien. Et cette critique-là a été reprise. Disons que dans le manifeste contre le travail, il s'agit d'un texte d'à peu près 20-25 pages, une trentaine de pages, qui est peut-être sa formulation là, la plus contemporaine, mais elle a été reprise par d'autres personnes, par d'autres tendances politiques aussi. Cette critique-là du travail a commencé peut-être à s'exprimer clairement, a commencé aussi à avoir des gens à partir, mettons, des années 60. Okay. Et elle a continué dans les années 70, au fur et à mesure aussi que la production se modernisait.
Puis quand on parle de l'autogestion et l'autonomie, ouais. Comment arriver à vraiment vivre ces choses-là?
Ben, pour commencer, quand on dit autogestion au travail, il ne faut pas se compter d'histoire. Hein? C'est impossible de dire je vais me construire une niche autogérée du travail quand le reste de ma vie va être enfermé. Il faut voir que le travail, tu as un espace de travail ou tu as un espace de non-travail qui est le soir, la nuit, c'est de la consommation, c'est un espace de consommation qui sert essentiellement à reproduire ce qu'on dit ta force de travail, c'est-à-dire à faire ce que tu sois un meilleur travailleur le lendemain. Fait que quand on parle d'autogestion, faut parler d'autogestion de l'ensemble de la vie, OK, comme telle. Puis quand on parle d'autogestion comme ça, moi je pense qu'on peut pas penser que moi puis ma gang, on va aller en campagne, puis on va aller on va aller faire une petite niche là juste entre nous autres là pour essayer de sortir de la société. C'est en même temps des pratiques comme ça, puis c'est en même temps des critiques. La critique sur le travail, faut l'emmener. Il faut pas penser que c'est juste une gang de militants perdus qui a fond. Il y a plein de monde qui apporte entre eux autres. Les gens qui sont tannés de travailler, des fois, qui décident de s'en aller, qui décident d'aller passer du temps sur le chômage, qui décident de faire des allers-retours, ils apportent en eux, mais c'est pas une expression politique. Donc, ça prend autant des gens qui décident d'expérimenter différentes manières de faire l'ensemble des choses, tu sais, que des gens aussi qui critiquent sur les lieux de travail, que des gens aussi qui ont un comportement, je dirais, anti-travail, tu sais, sans qu'il y ait le discours politique pour le mener à terme. Et ça, c'est l'idée, c'est d'en dégager une vision plus globale.
Ouais. Parce que il y a un autre système de valeurs aussi, en fait.
Oui, un autre système de valeurs qu'il faut en parler puis faut en délibérer. Parce que le piège, ce serait de dire, ben je vais partir ma coopérative de travail, tu sais, puis je vais essayer de me libérer. Sauf que les coopératives de travail sont dans le système capitaliste aussi. Tu sais. Ils sont insérés dans le marché. Ils ont à subir la dictature du marché. Hein. Qui décide que notre salaire, on peut pas l'augmenter le salaire. On a beau dire que c'est nous autres mettons, travailleurs coopérants qui décident ça, mais c'est le marché qui nous l'impose aussi. T'sais. C'est la même affaire quand on décide d'aller de demeurer en campagne. Si on décide pas de prendre la place, de la squatter, mais on décide de la payer, on est quand même enserré et prisonnier du marché. Faut penser qu'il y a des pratiques qui sont possibles, mais faut pas penser qu'on va se libérer complètement sans se débarrasser de l'ensemble par exemple, des institutions qui font que notre société est comme ça. Bon, par exemple, le marché, l'État, d'une certaine manière.
Mm-hmm. Alors, quelques pratiques pour ceux qui commencent à critiquer le système et le système de travail. On vous invite à une marche de flambeau le 26 avril pour résister la rencontre des ministres du Travail du G8. La CLAQ convoque à une fête à 4 heures au Parc Dominion. Il y aura des tables d'information, des ateliers sur des sujets différents. Il y aura du théâtre, de la musique et de la bonne bouffe. Puis à 6 heures du soir, on commence à faire la marche aux flambeaux pour tous ceux qui viennent amener du bruit et des flambeaux, puis on va résister ensemble. Merci beaucoup à Marc-André.
De rien.
Pour tous ceux qui veulent plus d'informations sur la mondialisation et le travail, vous pouvez trouver une brochure faite par Pierre-Antoine sur www.iris-recherche.qc.ca. Ça va être disponible à partir du 20 avril. Puis aussi pour se contacter avec la CLAQ pour avoir les prochaines activités et les assemblées générales, tu peux toujours appeler au 514-409-2049. Aussi, écrivez un courriel à claque@tao.ca. Puis le site web aussi, il y a plein d'informations. Alors, c'est le www.quebec2001.net. Merci et à la prochaine.